Ben gis gis baka tomate.
Y'a plus d'horizon.
Le new half ma wet décor.
Fini l'horizon.
Le new death ma tanné corps.
Détruit les saisons.
Pas ma bocon baka tomate.
Obstruit la raison.
Le new half ma tanné corps. Le new death ma tanné corps.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de ma vie, le détourner à son insu, fuir ce que je suis.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de ma vie, le détourner à son insu, fuir ce que je suis.
Le détourner à son insu, fuir ce que je suis.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de ma vie, le détourner à son insu, fuir ce que je suis.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de leur vie,
le détourner à mon insu, fuir ce que je suis.
Donc aide à horizon.
Le New York m'a donné corps.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de ma vie, le détourner à son insu, fuir ce qu'ils m'ont pris.
Je ne vois qu'une seule issue, trouver le sens de ma vie,
le détourner à son insu,
fuir ce qu'ils m'ont pris.
Garde chez les miens, des mamans, des mamans.
Qu'ils m'ont pris,
fuir ce qu'ils ont bâti.
La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, nous recevons le CRPA, André Bitton. Bonjour André.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cet exposé, j'ai prévu 5 points. Et donc je m'excuse d'avance auprès de Denis de ne pas avoir envoyé les documents. J'ai pas eu le temps, j'étais complètement crevé ces temps-ci.
C'est pas grave.
Donc 5 points. Alors sur les suivants. Alors précision sur la base, disons la prise de position du CRPA et anciennement du groupe Information Asile par rapport à la question du rapport à la folie, à la normalité. Pour, contre, valorisation de la folie, de la normalité ou pas, rapport à la norme, nous on est d'options validistes hein, quand même dans l'ensemble. On est des validistes hein, dans l'ensemble, on renvoie les gens à la norme et à la nécessité de se cadrer par le droit pour pouvoir vivre dans le cadre du contrat social actuel. Hein. De toute façon, c'est une base non négociable parce que quand le GIA a été lancé, c'était le plein feu de la schizolatrie qui a envoyé la contestation dans le mur. Hein. Donc, ça se discute, c'est conflictuel, mais personnellement, j'ai cessé très rapidement dans mon existence de tolérer ce spectacle de personnes dans des états de déchéance et de déréliction absolument insupportables. Voilà, d'autant plus que j'étais moi-même convié à un sort pareil, donc libre aux personnes de réagir par rapport à cela. Donc je vais indiquer cela. C'est un programme comme un autre, évidemment. Deux, il y a eu un gain en référé suspension au théâtre Grenoble, très intéressant au plan du droit des personnes internées sur les mesures restrictives de liberté, je vais en faire état. C'était le 6 mai passé. Par ailleurs, hier a été publié au journal officiel la loi contre les dérives sectaires avec son article pénalisant l'injonction ou la provocation à abandonner les traitements qui sont validés en l'état actuel des connaissances, donc ce qui est quand même très, très douteux. Quatrièmement, un édito de l'information psychiatrique, le journal du syndicat des psychiatres des hôpitaux, syndicat majoritaire chez les chefs de service, un éditorial intéressant sur le dessaisissement par la dernière loi de programmation judiciaire du juge des libertés de la détention comme juge habituel du contentieux du contrôle obligatoire des hospitalisations sans consentement pour un juge judiciaire sans nom déterminé, avec ce que ça entraîne. Et par ailleurs, en 5, un tour de table est convié, une réunion de travail est conviée à la fin du mois de mai dans le cadre du Grand Paris, par un élu communiste sur de la Seine-Saint-Denis. J'ai été convié, j'ai envoyé une lettre de désistement par rapport à ce tour de table sur le déficit en Seine-Saint-Denis, plus précisément, et en Île-de-France, de participation des personnes concernées. Donc je vais donner lecture. Donc alors voilà, donc on embraye. Alors sur la base, sur cette position de principe, nous dans cette mouvance, on n'aurait jamais actionné les ressorts juridiques, jamais, tout simplement jamais, si on était parti sur la base de la valorisation de la folie.
Oui.
Pour commencer. Mm-hmm. Sur la lutte juridique, on l'aurait jamais menée. Singulièrement moi, je l'aurais jamais menée. Alors que dans mon propre exemple personnel, que je connais bien puisque c'est ma propre affaire, enfin, que j'ai bien connue puisqu'elle est close, les contentieux qui ont été déployés par le groupe Information Asile dans mon affaire et auxquels j'ai participé étaient destinés précisément à ce que je puisse accéder à une prise en charge correcte. Voilà. Donc, alors, cela étant, ce que je résume ça ainsi, moi personnellement, c'est de retour du Maghreb lorsque j'avais 30 ans que j'ai réagi à cela. La condition qui m'était faite dès l'enfance était insupportable. Il est évident qu'une personne issue d'un exil, rejetée par les siens, provenant d'une métropole du tiers-monde, dans une métropole du Nord, en perdition, qui en plus cède aux injonctions des déliquescences occidentales, cette personne est fichue, monsieur. Simplement fichue. Entre les stupéfiants et le reste, la personne est morte. Bon, donc de toutes les façons, c'était un impératif personnel. Et au-delà de ça, maintenant, à chacun ses choix de vie, hein. Voilà, que ce soit clair. La base que je résume ainsi, au plan général, c'est celles et ceux qui donnent dans le culte de la folie et de l'autodestruction rendent un signalé service aux tenants de la psychiatrisation et du médicamentage à marche forcée de la population. Bon, on estime que ce sont des alliés du système psychiatrique tel qu'on critique. Après tout, si on critique ce système en tant que tel, de façon structurelle, alors on doit, si on a la force, hein, sous cette réserve, ça suppose d'être assez fort et pas d'être continuellement en cliquette, on se doit de se donner les moyens personnels d'essayer d'en sortir.
Oui.
Bon, quand même, il faut être cohérent. Donc nous sommes, à la base, en opposition avec cette esthétisation de la détresse humaine, voire la schizolatrie des années 70, voire ce paroxysme qu'a été Antonin Artaud.
Je pensais à Guattari, mais bon...
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais en parallèle, où il y a eu cet effet de mode de la schizolatrie avec Deleuze et Guattari, le labordisme côté Guattari, en parallèle aux éditions du Seuil, Philippe Solers embrayait la publication des œuvres complètes d'Antonin Artaud.
Oui, d'accord.
Alors maintenant, quand on les lit et qu'on regarde le cursus de ce poète dit maudit, il a été encouragé par le système psychiatrique lui-même à être paroxystiquement fou. Bon, Bon, alors c'est pas, c'est voilà. Donc, je renvoie là-dessus à la première brochure publique du groupe Information Asile, Psychiatrie, la peur change de camp, 1973. Mm-hmm. Une brochure programme qui est vraiment nickel, est vraiment impeccable. On la trouve d'ailleurs. C'est nos camarades anarchistes qui nous rendent l'immense service de rendre libre accès ce document.
Il était sur Zinzazine pendant un certain temps.
Il est très, c'est une brochure très bien. Hein. Dans cette brochure programme d'action, les fondateurs du GIA, qui étaient des internes en psychiatrie, s'affirmaient en opposition à la valorisation de la folie très tendance ces années 70 pour une affirmation des droits de travailleurs des personnes psychiatrisées et retenues en établissement psychiatrique. Bon, donc ça, cette base étant donnée, mais là-dessus, qu'il soit clair, qu'on soyons clairs à chacun son programme. S'il y a moyen, moi je suis très tenant de ce que les personnes connaissant la psychiatrie forment autant de comités, d'associations et de mouvements que nécessaire pour faire valoir leur base en autonomie. Pourvu que ce soit en autonomie. Pourvu que les gens ne soient pas de simples marionnettes. Alors donc, le deuxième point. Alors, voyons voir. Alors, on apprenait par les alertes Google sur lesquelles que j'ai posé sur des mots-clés, par donc un article de France Bleu, Drôme Ardèche, du 6 mai, qu'une avocate a obtenu, je l'ai eu au fil, hein, succinctement, une extraordinaire victoire juridique qui est très rare et qui ouvre, comme un qui participe à ouvrir une brèche. Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu en référé suspension les mesures de privation de liberté, les mesures restrictives de liberté prises à l'intérieur d'une mesure d'internement pour une jeune patiente retenue à l'hôpital psychiatrique de Montélégier dans la Drôme. Bon. La mère de la patiente dénonce de manière générale le fonctionnement de la psychiatrie en France. Pourquoi n'est-elle pas soignée ? La mère. Donc, alors, que s'est-il passé ? En fait, cette patiente était en mesure d'hospitalisation sans consentement, je ne sais pas quelle mesure, péréliminant, demander un tiers au préfectoral, je ne sais pas. Le contrôle judiciaire de la mesure lui-même est passé. Et là, l'avocate de la requérante et de la famille, alors que normalement il y a un bloc de compétences pour la juridiction judiciaire et que le juge des libertés aurait pu être saisi là-dessus, a saisi en référé administratif le juge administratif de Grenoble, dans la mesure où il avait été surimposé à cette patiente des restrictions de liberté, comment se surajoutant à la mesure elle-même. Autrement dit, restriction d'accès au téléphone, interdiction de visite ou visite très contingentée, interdiction de sortie, etc. Or, la mesure d'hospitalisation sans consentement dans un hôpital psychiatrique entier, celui de Montélégier, c'est un hôpital psychiatrique en tant que tel, n'impose pas qu'on soit en milieu fermé, par exemple. Il n'est pas imposé dans les textes que, puisque vous êtes en modalité d'hospitalisation sans consentement, on peut vous empêcher de visite, on peut vous mettre, enfin, etc. Et donc, en fait, comment dire, l'avocate, très malignement, a joué sur le fait qu'il subsiste encore une dualité de compétences et ne s'en est pas ouvert de sa demande que sa cliente ait des facilités élargies au sein même de la mesure et de son hospitalisation. Elle en a saisi le tribunal administratif en référé. Et le tribunal administratif de Grenoble lui a donné gain de cause et a suspendu les mesures restrictives de liberté à l'intérieur de la mesure privative de liberté. Eh bien, ça, c'est très malin, vraiment très très malin. Et ça a bien prouvé, de façon, que le bloc de compétences qui a été formé et accru petit à petit vers le juge judiciaire n'est pas du tout entier et qu'on est toujours à l'heure actuelle avec une dualité de compétences et donc avec une incertitude sur le juge à saisir et donc aussi en insécurité juridique. Parce que ce que ça fait, ce qu'il faut voir, moi on a bien connu les uns les autres, ceux qui ont été en contentieux pendant très longtemps, la dualité de compétences, elle fait que, pour un juriste courant, hein, je veux dire, qui n'est pas spécialement au courant de ce terrain, ou qui en a une vue générale, et pour les requérants eux-mêmes, pour les personnes qui se plaignent, ça fait que vous ne savez pas quel juge vous allez saisir, vous devez saisir. Il y a une incertitude tout le moins. Et d'une part, d'autre part, cela veut dire que ça complexifie toute procédure que vous allez introduire. Parce que c'est compliqué. Et parce que la jurisprudence administrative est une jurisprudence, comme on dit, prétorienne, c'est une jurisprudence qui se construit elle-même sur d'autres jurisprudences. C'est peu basé sur des textes, c'est basé essentiellement sur des décisions successives du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel. Donc c'est une construction juridique. Tandis que la juridiction judiciaire, elle est beaucoup plus tenue par des textes. Ouais. Donc, mais néanmoins, je dois dire que j'ai eu l'avocate qui a instrumenté en la matière. Vraiment, je l'ai félicité parce qu'il n'y a pas beaucoup de décisions comme ça. Hein. Et là, ce qu'on voit, c'est que comme la Cour de cassation a serré les critères dans le contentieux du contrôle obligatoire des mesures, quand vous passez à titre obligatoire devant le juge des libertés et de la détention, hein, ou que vous le saisissez pour que vous soyez libéré. Comme la Cour de cassation a serré les critères et qu'il y a de moins en moins, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des levées. Si là, on a une brèche qui s'ouvre pour en quelque sorte critiquer ce qui se passe à l'intérieur d'une mesure d'hospitalisation sans consentement. Comment vous maintenez en milieu fermé ? Je sais pas, voilà, je demande mon élargissement, mon avocate demande mon élargissement au directeur de l'établissement qui répercute par la voie hiérarchique. Une semaine après, c'est le juge des référés. Alors là, on a en quelque sorte des voies de procédure et de recours d'ouvertes qui sont assez connexes maintenant de ce que l'OIP travaille habituellement. Voilà. Donc c'est tout de même assez intéressant. Alors l'article de France Bleu était quand même assez intéressant, j'en donne lecture. Une patiente de l'hôpital de Montélégier proteste contre ses restrictions de liberté et obtient gain de cause, décision rare. Le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé en référé en faveur d'Axel, interné dans la Drôme depuis 3 mois, qui souffre de troubles de la personnalité. Le CH Drôme Vivarais doit lever ces mesures, car il n'a pas respecté la procédure. Selon Audrey, la mère, sa fille en souffrait énormément. Elle n'avait pas le droit de voir quiconque à part moi, ne pouvait m'appeler qu'un centre de fois. Elle m'a dit « Maman, sans toi, je me serais suicidée. Ça fait 8 ans qu'elle a des troubles, jamais elle ne m'avait dit ça. » L'hôpital refuse de commenter le cas particulier d'Axel, mais il a dit que les mesures restrictives de liberté sont rares, surveillées, adaptées, ça c'est leur baratin, elles sont fortement contrôlées, notamment par le juge des libertés. Le juge des libertés n'a pas compétence pour statuer là-dessus, ni pour les contrôler, mais bon. Précise Lucie Verhaeghe, la directrice de l'établissement. Malgré cela, le tribunal administratif s'est prononcé contre dans un référé. Ah non, c'est pas du mois de mai, c'est du 19 avril. L'avocate d'Axel, maître Johanna Sechaud, explique « L'autorité qui prend la décision de restreindre les libertés doit être compétente. Ce n'était pas le cas et il n'y a eu aucune raison donnée pour justifier de ces mesures. » On voit l'hypocrisie habituelle des responsables. Donc voilà, donc ça, c'est fait sur ce deuxième point. Alors, troisième point de cet ordre du jour, au journal officiel d'hier, la loi portant lutte contre les dérives sectaires a été publiée au JO, avec ses dispositions très problématiques pour les droits des patients. À savoir, c'est l'ancien article 4 de cette loi, avant qu'elle soit rediscutée, puis que les articles soient redistribués, qui est devenu l'article 12, dans lequel on peut lire, j'en donne lecture, il est inséré dans le code pénal un article 223.1.2, ainsi rédigé, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation au moyen de pression ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée, alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de sa pathologie ou de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique. Et puni des mêmes peines, la provocation à adopter les pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie des faits. Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués. sauf s'il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223.15.3 du Code pénal. Le signalement ou la divulgation d'une information par un lanceur d'alerte dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article. Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Donc, mon commentaire, qui a été approuvé hier, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, à la publication au JO, quiconque d'entre nous sera en contact avec une personne en suivi psychiatrique chronique dont il est patent qu'elle est complètement cassée et déshumanisée sous traitement psychiatrique au long cours, ne pourra plus de droit lui dire ce que les uns et les autres nous avons pu déclarer à ce genre de personnes, tirant ainsi un signal d'alarme, d'essayer d'obtenir une ouverture quelconque sur un autre circuit de prise en charge, en vue d'arrêter ses prises continues de traitement psychiatrique décérébrant et abêtissant. Une telle législation, ou alors il faudra dire expressément à la personne, les risques que vous encourez à l'arrêt sont tels et tels, et ça veut dire que c'est un programme de sevrage, ça veut dire qu'il faudra vous faire accompagner, etc. etc. Bon, heureusement, il y a quand même quelques personnes qui accompagnent à l'heure actuelle des sevrages, mais bon, là, c'est très risqué. Et c'est tout, hein.
Avec les neurones.
D'autant plus que pour les gens des professions à ordre, comme les médecins, il est prévu que dans ce cas, si une plainte est déposée, il y a un signalement qui part au Conseil de l'Ordre pour qu'il soit sanctionné au niveau ordinal. Donc une telle législation, c'est la porte ouverte à l'instauration étape par étape d'une discipline hygiéniste où les uns bénéficient de la clarté d'esprit, de la motricité, de la cognition, de la volonté et d'un libre arbitre. Les autres sont abrasés, réduits à l'état de loques pantelantes, avec des mouvements incontrôlés, donnant ainsi le très triste spectacle d'une humanité déchue. Ces personnes étant casées une fois pour toutes et souvent dès l'enfance parmi les inaptes, les malades mentaux, les déchets de la société dont on fait n'importe quoi et qui servent de cobayes humains pour n'importe quelle entreprise de domination aussi féodale que possible. Donc il y a cela. Alors il y a une dépêche de Spimedia quand même publiée hier qui rentre plus avant, enfin qui synthétise plus avant cette loi. Cette loi, tiens, il y a une erreur, c'est pas au JO du 11 mai, c'est au JO du 14 mai et loi du 11 mai. Alors attendez. Marque l'entrée en vigueur de nouveaux délits, notamment celui de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. Alors maintenant, quant à la saisine par le Conseil constitutionnel, qui n'a pas fonctionné puisque le Conseil constitutionnel a validé cette loi, saisine faite par le groupe Rassemblement national de l'Assemblée nationale et le groupe Les Républicains du Sénat, j'ai appris à Mathieu, notamment hier, notamment que ce qui s'est passé vraisemblablement, c'est que le Rassemblement national, l'Assemblée nationale, les Républicains, le Sénat ont préempté de saisir le Conseil constitutionnel en avisant leurs collègues parlementaires, si bien que la gauche, notamment France Insoumise et communiste Assemblée nationale, se sont dit « bon, ben, on ne va pas se joindre, c'est inutile, c'est préempté, on va pas risquer un amalgame ». La saisine est faite par du côté de la droite et extrême droite, bon, ben, on verra bien. Mais donc, c'est un arrangement intra-parlementaire. C'est pour cela qu'il y a une saisine, non pas par la gauche, mais bien par le Rassemblement national et les Républicains Sénat. Parce qu'ils avisent, il est évident que les groupes parlementaires, ils avisent préalablement leurs collègues à la présidence de l'Assemblée nationale qui vont déposer un recours. Donc, ça s'organise avant. Hein. Voilà. Donc, alors, ça, il y a ça. Alors, cette loi, c'est assez catastrophique. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à partir de là, le rôle des lanceurs d'alerte va devenir de plus en plus important.
Oui.
Voilà.
Oui, oui, d'ailleurs, quand il est mentionné, au vu des connaissances actuelles de la médecine, je trouve que c'est un peu suffisant d'apporter les dernières connaissances qui ne sont pas, en fait, toujours jamais abouties, en réalité, à une vérité juridique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des couacs dans la récente histoire des médicaments avec les scandales du Mediator. On a parlé aussi ici du Levothyrox. Et il y en a un troisième. Je crois que c'est la Dépakine.
Sur les antidépresseurs. Sur les antidépresseurs ou sur les benzodiazépines. Oui. Le problème pour la psychiatrie, c'est que le consensus reste général au niveau des autorités pour les neuroleptiques, ce qu'on appelle maintenant les antipsychotiques. Alors, d'une, il y a ça, il y a le rôle des lanceurs d'alerte, et d'autre part, sur les médias, une critique générale impersonnelle est possible. Une critique plus dans les détails et disant aux gens alerte, cessez, etc., ça, voilà. D'autre part, au niveau associatif, ce qui reste faisable, c'est effectivement d'alerter les gens qui sont en prise continue de traitement psychiatrique sur la dangerosité de ces traitements et de formaliser de préférence par écrit qu'on les met en garde sur les risques d'un sevrage.
Oui, et d'ailleurs, est-ce que ces patients en sont informés dès le début du traitement ?
Jamais.
Et voilà.
Oui. Enfin, ou pratiquement jamais. Oui. Ça, le défaut d'information qui, normalement, devrait être un moyen juridique de condamnation, il n'est pas tant. Il n'est pas tant. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est ce que j'ai développé continuellement dans mes interventions récentes, notamment au colloque de Nantes, où ils ont préféré zapper pour en bottant en touche. Pourquoi j'ai établi la connexité entre le régime ancien de l'indigénat à l'époque coloniale, avant que les taux soient desserrés dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et là, la situation de fait et de droit des personnes suivies pour pathologie psychiatrique, c'est que l'on considère que les personnes suivies psychiatriques sont tellement inférieures, infra-humaines, qu'il n'y a même pas lieu, et même pas adultes, qu'il n'y a même pas lieu de délivrer une information qu'on délivrerait à d'autres. Hein ? Bon. Donc ça, c'est une affaire à suivre, mais cela veut dire que dans ce pays, on s'achemine étape par étape. Ça fait longtemps que ça dure, hein, cette histoire. Plus présent depuis les années 2000. Étape par étape vers un hygiénisme. Une espèce de dictature hygiéniste. Et avec donc la constitution en quelque sorte de caste biologique où les uns pourront avoir le libre arbitre, circuler à peu près en liberté sous les contrôles, etc. Et d'autres abrasés au niveau même des capacités qui distinguent l'être humain de l'animal. Parce que, écoutez, les traitements psychiatriques, on s'en rend compte, abrasent l'intelligence, la cognition, la motricité. Or, dernière nouvelle, ce qui nous sépare du règne animal, c'est cette capacité qu'on a d'abstraction, de construction et d'action. Dernière nouvelle, quand même. On est corticalisé. Mais bon, si ça plaît à des tas de gens... Parce qu'en plus, le problème, c'est que si des tas de gens restent dans ce circuit, c'est que des patients, c'est qu'il y a un intéressement. Il y a des intéressements. Parce que comment interprète-t-on qu'autant de gens sont là-dedans, pris dans la nasse et se la ferment ?
Je ne saurais pas répondre.
Moi aussi.
Un phénomène d'adaptation aussi à des situations.
Enfin.
Oui. Bon.
Enfin bon, voilà. Il en est ainsi. On va dire que moi, je me suis résolu quand même, et je dois me résoudre à faire une différence entre des gens qui ont la force de réagir et des gens qui n'ont pas la force. Hein, quand même. Donc voilà, donc pour ce troisième point. Enfin, un quatrième point, il y a eu de publier dans la dernière livraison de l'information psychiatrique, le journal, la revue du SPH, une alerte que je pense, j'avais déjà souligné cela dans une émission L'Entonnoir, des docteurs David et Jean-Louis Senon. Alors, Michel David, ce sont deux psychiatres honoraires. Jean-Louis Senon est un criminologue qui a été prof PUPH, professeur d'université, praticien des hôpitaux à Poitiers. Et Michel David a eu des responsabilités éminentes dans la psychiatrie nationale. Il a dirigé longtemps l'association des secteurs psychiatriques des prisons. Alors, ils reviennent sur... l'article 44 de la loi du 20 novembre 2003 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Alors, cet article 44, qui pose problème, stipule ce qui suit. Pour tout ce qui concerne les soins sans consentement, l'isolement et la contention, mais également, ils ne le disent pas, mais également le contentieux des migrants sans titre en cours d'expulsion retenus dans les CRA hein, aussi. Donc, le juge des libertés de la détention, vice-président du tribunal judiciaire, ne traitera plus les questions du contrôle obligatoire de l'hospitalisation sans consentement. Ce contrôle incombera un magistrat du siège du tribunal judiciaire sans qu'il soit déterminé son rôle et sa fonction précise en tant que juge judiciaire. Un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Un magistrat judiciaire. Bon. Alors, tous les hospitaliers sont rompus au travail constant, patient, attentif, diplomatique qu'il a fallu faire ou qu'il faut faire pour que le traitement des soins sans consentement qui font l'objet de procédures rigoureuses, lourdes et chronophages puisse se dérouler au mieux pour les patients, les professionnels hospitaliers, soignants administratifs et les professionnels judiciaires, magistrats ou greffiers. Avec cette réforme, il faut s'attendre à ce que des magistrats moins informés de cette matière, voire tournants de garde, se saisissent de cette procédure, il ne peut que s'en suivre une dégradation du service rendu aux patients et tout un travail à refaire en permanence avec de nouveaux magistrats par des équipes surchargées. C'est-à-dire qu'il va y avoir, d'ores et déjà, c'est exécutoire depuis le 1er janvier, une perte de spécialité. Bon. Alors que la jurisprudence, les formations, ça s'est élaboré, faut voir comme, hein, tu vois, ça a été laborieux. Alors que depuis des années, les lois et les QPC ont affiné la procédure relative aux soins sans consentement, à l'isolement, à la contention, en arguant légitimement de l'importance à donner au principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir, tout en passant toutefois trop souvent sous silence l'autre principe constitutionnel aussi important de protection de la santé, l'article 44 donne un signal inverse en déqualifiant le rôle du magistrat. Il conviendrait que nous réagissions à cette régression et fassions quelques propositions pour minorer les impacts éventuellement négatifs de ce changement avant que décret ou instruction à venir ne soit publié. Cette réaction est d'autant plus importante qu'il semble que le ministère de la Santé n'ait pas été consulté sur le projet de réforme par la chancellerie, ni que des responsables importants de la politique relative à la psychiatrie comme le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, docteur Bélibier, ou président de la commission nationale de psychiatrie, docteur Lejoyeux, professeur Lejoyeux, n'aient communiqué sur ce sujet. Inutile d'en dire plus, il est aisé de comprendre que la psychiatrie n'intéresse guère les pouvoirs publics, sauf quand un fait divers dramatique, relatif au droit commun, ou plus spécifique en relation avec la radicalisation islamiste, ne secoue les médias, ne serait-ce que pendant un quart d'heure avant de passer à un autre sujet plus croustillant. Ça, c'est vérifié. Hein. Et pourtant, la complexité des procédures des soins sans consentement croissant depuis plus de 10 ans est responsable en partie de la perte d'attractivité de la psychiatrie hospitalière. Quel sens donner à cette curieuse nouvelle péripétie dans le contexte global d'involution de la psychiatrie? Et comment avoir un regard distancié, épistémophilique sur la psychiatrie contemporaine, surtout en l'absence de grands penseurs comme Henri Hess, Serge de Beauvissy, René Diatkin, Georges Lanthéry, Laura et bien d'autres, et en étant plongé dans la gestion du marasme au quotidien? Se poser au moins ces questions permet d'essayer de se tenir la tête hors de l'eau. Psychiatre, réveillez-vous enfin. Prolétaires de tous les pays unisés. Bon, non, mais ce cri d'alarme est bienvenu en ce que c'est toujours la même chose. Comme le contrôle judiciaire a été introduit contre la volonté, contre le gré des détenteurs de pouvoir, ils ont mis en route une loi très compliquée, de plus en plus compliquée, mal faite dans l'urgence d'ailleurs, si bien que les dispositifs législatifs et réglementaires qui se sont succédés depuis 13 ans, pardon, 2011, sont bourrés de choses trappes. Ces choses trappes sont des juridistes peuvent s'en saisir, c'est très pratique jusqu'à un certain point, puisque ça fait des nullités dans tous les sens, mais en face aussi. Et les gestionnaires de cela s'en tirent les cheveux. Bon. Sachant que certains gestionnaires psychiatriques, à la belle époque, avaient les cheveux longs.
Oui.
Bon. Oui.
Bon.
Non, mais bon. Ils n'étaient pas les seuls, mais bon. Donc, ce signal d'alarme est bienvenu. Néanmoins, si tu veux, je trouve dommage, enfin c'est ainsi, ils sont du bon côté de la barrière, que eux en tirent pour conséquence que le formalisme juridique est contradictoire avec les soins. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans une impasse. Parce que ce n'est pas vrai. Si dans le cadre de mesures qu'on prend pour priver de liberté ou restreindre de liberté une personne, si l'on ne suit pas un canevas juridique précis, alors précisément, on ne peut pas avoir la confiance de la personne.
Oui.
Fais une pause musicale.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Alors, bonjour. Alors, j'étais avisé par Mathieu Mélassen le 7 mai d'une initiative relative à une volonté de réinventer la psychiatrie de proximité. L'initiative donc de Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, mairie communiste. Donc une matinée de travail prévue le 30 mai, 9h30 à 12h30 à la mairie de Gennevilliers. Alors, ainsi libellé. Alors que depuis des années, le secteur psychiatrique traverse une crise très grave, nous souhaitons entamer une réflexion sur de nouvelles façons de prendre en compte des personnes ayant des problèmes psychiques relevant de la psychiatrie. Les constats sont là, dégradation de l'accueil et du soin, retard dans la prise en charge des personnes concernées, et ce, en particulier dans les villes et les quartiers populaires. Les actrices et acteurs des terrains, les élus, les patients eux-mêmes cherchent des voies pour sortir de la situation actuelle, telle que mise en œuvre actuellement. La démocratie sanitaire en matière psychiatrique est défaillante. Les premiers concernés sont trop peu souvent associés aux décisions qui impactent grandement leur vie. Les professionnels vivent une situation de désarroi et parfois même de désespoir. Tant la perte de sens de leur travail est manifeste, à l'impact éthique des soins. Une approche normée empêche l'émergence de réponses qui prendraient mieux en compte l'intérêt des personnes concernées par des troubles psychiques ainsi que de leurs familles. Il faut redonner de l'espoir, du sens à la prise en charge. La psychiatrie de proximité doit se construire à partir des droits fondamentaux des usagers et d'une confiance entre les soignants et les autorités de santé afin de permettre des expérimentations qui auraient vocation à se généraliser. Nous avons tous notre mot à dire dans la construction d'une psychiatrie, d'une pédopsychiatrie de proximité, usagers, familles, professionnels, élus, et pourquoi pas, au lieu de répondre à des appels à projets, de proposer un projet à l'ARS. Ah oui, ça, ils ont raison. Hein. Parce que c'est vrai que sur les appels à projets très standardisés, ça gêne les initiatives. Alors, bon, moi, j'avais fait une réponse. Dans un premier temps, j'étais intéressé pour participer à cette prise de, à ce tour de table, puis finalement, je me suis désisté. J'ai répondu par mail du 11 mai la chose suivante. Après réflexion, et quoique le sujet de cette réunion de travail du 30 mai à la mairie de Gennevilliers m'intéresse, je ne serai pas présent pour le motif principal dont je vous résume la teneur. Je crois qu'on a là, dans ces quelques lignes, ce qui pose problème depuis des décennies. À savoir que oui, on veut bien nous, mais les usagers comme ci, comme ça, tiens, tel fou, ça marche, non mais l'autre, ça marche pas, faut pas trop qu'il soit requérant, hein. C'est vraiment tout du long, c'est ça. La ségrégation réflexe que les personnes connaissant ou ayant connu la psychiatrie en qualité de patient en caisse, quel que soit leur profil, est telle et d'une telle gravité qu'il me semble improbable, en l'état actuel des choses, qu'une telle réunion de travail puisse aboutir à quelque chose de tangible à brève échéance. Je suis engagé très longue date dans un militantisme pour les droits fondamentaux des personnes psychiatrisées. J'assume des responsabilités associatives depuis près d'un quart de siècle là-dessus. Au plan politique général, on est dans une situation paradoxale où d'un côté, on assiste à une carcéralisation des hospitalisations psychiatriques avec un durcissement des textes en matière de contraintes psychiatriques, hein, c'est depuis la fin des années 2000, mais aussi à un vent libéral avec la désinstitutionnalisation où il est de plus en plus question d'autonomisation des personnes en suivi psychiatrique. Par ailleurs, on commence à embaucher des personnes en cours de suivi psychiatrique dans le cadre des nouveaux métiers en santé mentale, main-d'œuvre précaire à moindre coût d'ailleurs. Mais, et sauf très localement, on ne note pas de politique systématique et effective de déstigmatisation qui conduise à une insertion ou réinsertion, ainsi qu'à une démédicalisation pourtant nécessaire pour nombre de personnes qui restent captives dans les files actives sous divers chantages. Puisque vous êtes élu en Seine-Saint-Denis, je vous signale qu'à ma connaissance, aucun des groupes d'entraide mutuelle qui ont été développés en Seine-Saint-Denis ne sont dirigés en autonomie par des personnes concernées par la psychiatrie en qualité de patient ou d'expatient. Autant que je sache, ces groupes d'entraide mutuelle sont sous la tutelle de l'UNAFAM Seine-Saint-Denis et des professionnels de secteur. J'ai eu un conflit en 2016-2017 qui est d'ailleurs toujours en cours d'appel de Paris avec la ville de Stein sur cette question, où c'est moi-même qui a été considéré comme agresseur, alors qu'en fait c'est le mouvement que je représente et moi-même qui étions à la base des victimes. Cette commune avait instauré fin 2016 un conseil local de santé mentale, fermé depuis, n'incluant aucun psychiatrisé du secteur. Au contraire, au cours de procédures en cours de procédures devant la juridiction administrative, nous avons appris que pour cette commune, il était hors de question de travailler avec des malades ou anciens malades, mais juste avec des familles et des professionnels. On était là dans l'entre-soi, nos malades, nous les professionnels, nous. Enfin, voilà. J'étais à l'époque dans la totale ignorance du fait que cette commune et sa direction ont une réputation d'antisémitisme. Je ne dis pas qu'ils sont antisémites, je dis qu'ils ont une réputation d'antisémitisme. En effet, en ce qui me concerne, je ne suis pas communautarisé. Depuis les événements de 68, à partir desquels j'ai été rejeté par les miens. Je le précise à tout le temps. Je suis un athée convaincu. L'ancien coordinateur de ce conseil local de santé mentale, sociologue franco-marocain spécialisé en addiction, nous a opposé avec sa hiérarchie un blackout total. Doit-on en arriver à penser que dans une commune de ce genre, avec la hiérarchie, des agents couvrent quelques réseaux de trafiquants stupéfiants dans leur commune, et là, en la matière, qu'ils ont entendu ne surtout pas avoir de regard extérieur sur leur gestion de la population psychiatrisée de cette commune. Ça pose vraiment un problème. Ça pose vraiment un problème, parce que, le conseil local de santé mentale, c'est une instance de concertation municipale avec les différents acteurs du terrain, de sorte à promouvoir une démocratie sanitaire. Or, eux, la démocratie sanitaire, c'est entre nous. Voilà. Donc, au vu de cet exemple et de quelques autres, je pense que l'initiative que vous convoquez pour la fin du mois de mai, vu les protagonistes habituels en la matière, soit n'aboutira pas, soit aboutira au fait que quelques personnes psychiatrisées de service, aussi neutralisées que possible, avec de préférence une identification mimétique aux professionnels qui les tutorent, seront éventuellement cooptées dans quelques communes d'Île-de-France, bien entendu sous condition d'être des courroies de transmission sans autonomie du système en place. Je suis sincèrement désolé d'avoir dû constater qu'un pareil état de fait est structurel et reproduit d'office malgré des déclarations de façade de décennie en décennie. Et moi, depuis le temps que je milite sur le terrain, toi qui es là sur ce terrain de nuit depuis fort longtemps, tu vois ça depuis le début. C'est bien ça ? Tu vois ça depuis le début. Et donc ce qu'on voit depuis le début, malheureusement, en matière d'intéressement, de participation des usagers, c'est... Et là, c'est comme ça, quoi. Attention, distribuer un peu de sous.
Oui,
c'est pas ça.
Oui, une forme de pacification.
Non, on achète. Ouais. Les gens sont achetés. Ouais. La participation des usagers, aussi neutralisée que possible et aussi carpette que possible, elle est achetée. Enfin, moi, je veux dire, heureusement qu'il y a quand même des personnes, personnellement, j'ai donné voix ces temps-ci, notamment dans les confs, qui finissent par dire ce qu'ils ont à dire, quoi, je veux dire. Mais il y a quand même, dans ces circuits, pas mal de personnes qui viennent quand même vous dire, quand elles arrivent à parler, oui, je te le dis à toi, mais il ne faut pas trop le dire parce qu'il y a des risques sur la carrière. Je ne voudrais pas qu'ils nous suppriment les subventions. Donc, ils achètent le silence. Ils achètent le silence de façon... Alors, d'autre part, j'ai vu là que dans la dernière livraison de l'information psychiatrique, il y a un article détaillé à plusieurs mains de doctorants et de Benoît Hérault, enseignant-chercheur, par rapport à l'équilibre entre respect des droits et soucis cliniques, la difficile écoute des justiciables hospitalisés au cours des audiences judiciaires. C'est-à-dire que je suis scandalisé par cette thèse prévalente dans le circuit universitaire que Benoît Hérault soutient notamment en écho au lobby hospitalier, hein, si tu veux, mis à part l'USP, hein, quand même, l'Union syndicale de la psychiatrie, qui consiste à dire que le formalisme juridique, c'est vraiment excessif. Donc alors, ce qui se passe ces temps-ci, c'est ce que j'ai décrit, ce que maître Raphaël Maillet, dans le colloque à Nantes du 10 mai, a également dit en tant que praticien du droit, du côté des internés, c'est que la jurisprudence la jurisprudence de la Cour de cassation, petit à petit, est venue retoquer l'impact du juridisme, l'impact des nullités de droit, bien. Et d'autre part, on l'a vu avec le film 12 jours de façon scandaleuse, les hospitaliers et les juridictions sont enragés entre eux pour que, les nullités, ça va, nos fous, nos malades, faut quand même, on leur met une audience à la va-vite, puis voilà, c'est tout. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on crée un droit à plusieurs vitesses, puisque les détenteurs de pouvoir qui sont poursuivis pour des exactions graves ou pour des détournements de fonds qui, quand même, mettent en cause la classe politique et la classe des affaires. Eux, avec leurs conseils, ont droit à tout ce qu'on veut au niveau de l'impact du formalisme juridique. Je veux dire, les Sarkozy et consorts, procédures cassées sur des nullités, en avant. Pour eux, les nullités de droit, ça marche. Mais pour les pauvres fous de la base, qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est leurs soins. Non, moi je trouve ça gravissime, parce que précisément, nous, si on s'est battu pour que du droit soit introduit sur le terrain, c'est précisément pour contraindre au respect du principe d'égalité des droits devant la loi, hein, d'égalité devant la loi, pour être plus exact, qui est garanti par la Constitution, garanti par la Déclaration des droits de l'homme, et que les acteurs du terrain, les familles, mais les patients eux-mêmes, les personnes eux-mêmes concernées, soient contraintes de se dire, les personnes en suivi psychiatrique et qu'on contraint des mesures psychiatriques sont des hommes et des femmes comme les autres.
Oui.
Des justiciables comme les autres. Et là, cette critique est incessante. Cette critique est incessante et elle vient de professionnels qui ont également leurs usagers de service, qui sont leurs courroies de transmission, qui nous dit aux uns et aux autres et à la société, non, vous n'êtes pas pleinement des êtres humains. Non, nous, on a une relation de domination de type féodal, postcolonial, enfin tout ce qu'on voudra, et on entend maintenir notre jouissance à l'exercice de cette relation de domination. Bah, dans ce cas, on ne peut pas parler de soins en bonne et due forme. Parler de soins en bonne et due forme avec des gens qu'on infériorise et qu'on renvoie éternellement à une sous-humanité, c'est pas tout à fait ça. Donc je pense qu'on a là au moins l'intérêt de ces polémiques incessantes depuis la judiciarisation, c'est que cela a mis sur la table ce qui auparavant était sous le tapis. Parce que si tu te rappelles, Denis, quand tu as commencé à intervenir sur ce terrain en 2000,
oui,
c'est en 2000, ces questions étaient balayées, mises de côté.
Complètement.
C'est pas ça?
Oui, tout à fait.
Au fil retrouvé, tu as un sourire. Alors, si je prends par exemple un paragraphe de cet article,
au hasard, hein, je mais voilà. Tiens, une information aux justiciables hospitalisés prévue, mais difficile à mettre en œuvre. Bon, voilà. Donc, nous, on est sous des contraintes. Les hospitaliers sont sous des contraintes procédurales. Alors, c'est vrai. Il y a eu un accroissement catastrophique des astreintes protocolaires et de procédures pour les hospitaliers. À effectif constant et même mieux, à effectif moindre. Voilà, ça, c'est clair. Alors, il est vrai que le gouvernement, les pouvoirs publics et les différents ministères se sont arrangés pour que le contrôle judiciaire obligatoire ou facultatif des mesures de soins sans consentement et le contrôle judiciaire des isolements contention participe du découragement de celles et ceux qui travaillent dans la psychiatrie publique, de sorte à ce qu'ils désertent, à ce qu'ils démissionnent, et à ce qu'eux puissent continuer une fermeture de service. Parce que ça, c'est sûr, la façon dont c'est mis en œuvre, c'est un découragement à continuer. Bon. Et donc, il est vrai, moi, je lis régulièrement l'information psychiatrique, quand on a obtenu, avec Raphaël Maillet, hein, surtout du barreau de Versailles, le contrôle obligatoire des mesures d'isolement contention, des maintiens d'isolement contention, là, ils ont mis les cartes sur la table en appelant carrément, pratiquement, les praticiens hospitaliers de leur ressort à démissionner. Alors. Pause musicale. Il y a danse encore, c'est faisable ?
Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh,
d'accord. impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence.
Et c'est toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire, l'entonnoir émission critique de la psychiatrie, et sur la radio libre de la Fédération anarchiste.
Alors oui, la conclusion de cet article sur l'information psychiatrique, sous la direction de Benoît Hérault, sur « Entre respect des droits et soucis cliniques, la difficile écoute des justiciables hospitalisés au cours des audiences judiciaires », leur conclusion, qui est un peu casuiste, de cet article, quand même, laisse réfléchir. Bon, j'en donne lecture comme ça. « Un décalage ». Entre les objectifs et les moyens procéduraux. En systématisant un contrôle judiciaire sur les procédures d'hospitalisation sans consentement, le législateur s'est conformé aux décisions successives du Conseil constitue, rappelant le nécessaire respect des droits fondamentaux des patients. Au-delà de la mise en conformité avec des principes constitutionnels, un certain nombre de travaux ont questionné ces audiences en se demandant si elles étaient perçues de manière juste, notamment par les différents protagonistes. S'inscrivant dans la continuité de ses travaux, cet article a cherché à éclairer la signification de ces audiences, etc. Si le recueil de la parole est justifié par une forme de reconnaissance des justiciables hospitalisés comme sujets de droit, son écoute et sa reconnaissance sont rendues difficiles par une procédure qui rend peu lisible le sens que peut prendre cette parole. Le recueil de cette parole ne répond pas à une demande du patient, mais à une convocation du juge. Les compétences légales des juges les conduisent à écarter les demandes des justiciables hospitalisés. L'organisation de l'audience apparaît de fait comme peu équitable. Seuls les justiciables hospitalisés sont auditionnés et exposés au contradictoire. C'est vrai que les autres parties, les directions d'hôpitaux, les préfectures sont généralement absentes. La lecture des certificats médicaux par les juges conduit à renforcer un sentiment d'expertise surplombant, puisqu'on les met dans la figure des patients, le contenu des certificats, puis la réponse que peuvent donner les patients est d'autant plus écartée que les magistrats ne sont plus autorisés par jurisprudence de la Cour de cassation de contredire les contenus des avis et certificats médicaux. Cette organisation procédurale rend difficilement possible la confiance entre les parties, conduisant à conforter le soupçon de collusion institutionnelle entre les pouvoirs médicaux et judiciaires. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, eux, leur conclusion, parce que je commence à connaître leur conclusion, c'est qu'on ferait mieux d'arrêter un contrôle obligatoire pour instaurer un contrôle à la demande et de faciliter. Mais le contrôle à la demande existait, c'est ce qui existait auparavant. Il était rendu dissuasif, puisque si les personnes demandaient le contrôle facultatif, elles subissaient des représailles.
Il y a peut-être une intention de faire disparaître complètement l'article de la loi du 5 juillet 2011 concernant le JLD.
Non, ils n'en sont pas là. Non. Ce qu'ils préconisent, c'est aménager des procédures d'accès au droit à l'intérieur des établissements, de sorte que ça se passe dans l'entre-soi, que ça ne sorte pas trop vite, et qu'il y ait un filtrage tel que n'arrive aux juridictions que les trucs. Mais le grand intérêt,
Le grand intérêt du contrôle judiciaire obligatoire, même si ça a été truqué, même si le gouvernement, les gens qui ont conçu ces textes, l'ont fait une machine de guerre et contre les patients, un contrôle quasi pénal, et contre les hospitaliers, finalement. Hein, c'est une sorte... Il ne reste pas moins que ça a mis sur la place publique cette question.
Oui.
Et eux, ce qu'ils disent, c'est non, revenons au monde autarcique psychiatrique qui était auparavant dans les murs et qui est maintenant éclaté dans la ville, hein, si tu veux. Revenons à cela un peu dans l'entre-soi, on magouille tout le monde et puis en avant. Non, mais enfin, vraiment, moi je trouve ça d'autant plus choquant quand on sait que ces thésards et ces universitaires nous approchent, nous les uns et les autres, en nous demandant gentiment pour leur thèse, expertise, leurs travaux et leur carrière, d'être des rats de laboratoire dans leur laboratoire. Donc moi, je trouve ça d'autant plus choquant. Mais bon, d'accord, enfin, c'est une organisation, c'est une organisation en la matière qui prête lieu à contestation, on va dire, qui est conflictuelle. C'est pour ça que moi, j'ai regardé avec un certain intérêt ce que faisait Céline Letailleur, ce qu'elle a tenté de mettre sur pied, à savoir un mouvement, une espèce d'association où les gens ayant connu ou connaissant de la psychiatrie en qualité de patient développent leur propre expertise et la mettent sur le marché. Voilà. Bon, en quelque sorte, c'est assez intéressant. Moi, ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas, c'est pas la peine d'insister, mais c'est quand même affirmer qu'on est tout à fait capable. En fait, voilà, ce que j'en pense, c'est cela, c'est que nous sommes capables, les uns et les autres, de développer une expertise autonome, et on n'a peut-être pas besoin d'être tutoré par des professionnels et des laboratoires pour cela.
Ainsi, ce sera le dernier mot. Se termine l'entonnoir pour cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Que tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bateaux négriers qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral, ces hommes et femmes à fond de cale, arrachés à leur terre natale, sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, boit des peines que l'on enchaîne, oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine.
On vient de Corée aussi.
On vient de Corée.
Quand on est enfant d'ici.
Enfant d'ici.
Si je suis d'ici, je suis.
Je suis. Dans les ports du Havre, de Nantes, La Rochelle ou Bordeaux, ces navires pleins de pacotilles dessinent sur les flots. Entre comptoir et monde nouveau, chargé d'esclaves ou d'indigo, le grand triangle de leur Eldorado. Et ces nations soumises à ce système que l'Église autorise, ces hommes et marchandises qu'on brutalise et qu'on épuise, ces peuples que la guerre divise et ces terres que l'on déshumanise, est aujourd'hui l'Afrique qui s'enlise. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, bois des peines que l'on enchaîne, oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine.
On vient de Corée,
aussi.
te connais.
Quand on est enfant d'ici,
enfant d'ici,
si je suis d'ici,
je suis. Même si nos cœurs souffrent et saignent en silence, du bruit que fait encore l'écho de leurs cris de souffrance, loin d'être à travers de la violence, faisons que jusqu'à l'évidence, créole rime toujours avec amour. On vient de gorer. Si je suis d'ici, je suis enfant de Gorée. Si